Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand en compagnie d'Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et de Fanny De Citre de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune, membre du réseau de librairies indépendantes Initiale. Vous êtes bien sur Bac FM et nous sommes en studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Nous nous retrouvons pour une émission printanière, mais avec des déchets new-yorkais, des vagues, une arlésienne et bien plus. Alors comme d'habitude, deux parties dans cette émission. Tout d'abord, les conseils de lecture de nos chroniqueurs et en deuxième partie, l'interview de notre invité Arnaud Dudek, auteur que je suis depuis la sortie de ses premières nouvelles, c'était avant 2012, dans la revue Décapage, revue que je vous recommande d'ailleurs au passage, et qui a publié en septembre son septième roman, On fait parfois des vagues, aux éditions Anne Carrière. Un petit plaisir entre théâtre et roman à savourer, et dont il nous dévoilera les coulisses tout à l'heure. Mais auparavant, je laisse la parole à Arthur qui va nous parler de soleil, de la vie et du temps. Alors, dit comme ça, on dirait de l'astrophysique, mais pas du tout. C'est de l'humain. Et rien que de l'humain.
De deux romans renversants, effectivement. Tout d'abord, Life and Times, qui est renversant au sens propre puisqu'on va voyager dans le temps. Puis Soleil jusqu'à la fin, qui est, lui, renversant émotionnellement.
Ouf, bah dis donc, ça promet.
Ça promet. Commençons sans plus tarder par Soleil jusqu'à la fin, qui est le nouveau roman explosif et émouvant de la collection Exprime de chez Sarbacane.
Un éditeur qui a vraiment une politique éditoriale extrêmement riche.
Très belle, ouais. Et ceux qui me connaissent justement savent que j'affectionne particulièrement cette collection qui regorge d'excellents bouquins, de la fantastique. On a des romans engagés, bref, il y a vraiment de tout dans cette collection. Alors, comme j'aime souvent le dire, la lecture est un moyen de changer son regard sur les choses, sur les gens, et de reconsidérer sans cesse sa façon de penser. Et justement, c'est ce que m'a indéniablement fait penser Soleil jusqu'à la fin.
Parce voilà. Que ça a l'air un petit peu comme ça, Soleil jusqu'à la fin, quand on lit le titre, on se dit « Ouh, ça va pas être gay !»
Justement, au contraire, il risque de vous montrer que la vie est belle, même si elle est souvent injuste, et qu'une petite chose pour nous peut être une grande chose pour un autre. Et qu'il faut donner de l'amour à ceux qu'on aime aussi.
Ah oui, ça c'est une bonne idée.
Oui. Justement, la mère d'Amaya, elle aime souvent dire « La vie, c'est une tartine de merde et on en mange un peu tous les jours. »
Ouf.
Voilà.
Oui, alors je sais, oui, bon, les auditeurs qui nous écoutent à midi vont aimer. Bon appétit.
Voilà. Mais je dis « aime », mais en fait c'est plutôt « aimer » parce que Amaya, sa mère, elle est morte. Comme ça, pouf.
Ah ouais, elle a mangé la tartine d'un seul coup, donc.
Voilà. Et en plus, Amaya, son père, lui, il a disparu. Mais ça, c'était quand elle est petite. Donc, elle a eu le temps de s'y faire. Sa mère disait qu'il s'est tiré avec une arlésienne.
Voilà, la fameuse arlésienne.
C'est ça. Bref, Amaya, cette petite fille pleine de fougue et de joie de vivre, va brutalement voir sa vie basculer le jour où elle est envoyée dans un orphelinat par sa tante qui ne peut pas s'occuper d'elle. Là-bas, les gens sont gentils, mais Amaya a du mal. À quoi ça leur sert d'être gentil, en fait?
C'est vrai, ça. Mais c'est une bonne question.
Ils ne la
c'est
connaissent même pas. Bon, finalement, elle va quand même se lier d'amitié avec plusieurs autres enfants et monter une pièce de théâtre jusqu'au jour du drame. Le jour où Amaya se fait agresser par un grand et qu'elle est obligée de partir de l'orphelinat. Alors elle a l'impression qu'on l'abandonne toujours, quoi. Dès qu'elle commence à s'attacher à quelqu'un, elle est obligée de partir.
Ouf, c'est un peu dur quand même, hein.
Ouais, c'est dur, mais c'est un roman excellent. Et en plus, le ton est vraiment bien parce que c'est Amaya qui nous parle tout au long du roman. D'ailleurs, elle a décidé de nous appeler Albert. Et c'est beau de voir la vie à travers ses yeux de petite fille malmenée par la vie.
Oui, c'est vrai que le langage du roman est très... très
franc
jeune, très
franc,
direct.
Ouais, c'est ça. Oui. Du coup, je me suis beaucoup attachée à elle, elle est tendre, rigolote, et puis punaise, on a envie de la serrer dans ses bras quand même.
Oui, c'est vrai, de lui faire un gros câlin parce qu'elle souffre beaucoup.
C'est, justement, plus. C'est là qu'on se rend compte de l'injustice de certaines vies. Pourquoi eux? Pourquoi ce sont les gens gentils, ceux qui n'ont rien demandé, qui subissent ces choses? Jamais personne n'aura la réponse, malheureusement.
Eh oui, ça c'est une question métaphysique.
Mais la moindre chose, c'est de les aider. Du coup, c'est un très beau message que nous adresse l'autrice Mélanie Georgelin à travers ce roman Young Adult. Maintenant, on change complètement de sujet puisqu'on va parler de la place de la femme dans la société à travers les époques avec Life and Times.
Très très vaste sujet.
Alors, l'histoire, c'est Bradley qui est envoyé dans un pensionnat en pleine campagne par ses parents et sa passion, c'est son téléphone, elle passe sa vie dessus. Ensuite, on suit aussi Eugénie, qui, elle, est une jeune fille du 19e siècle et veut être libre. Elle ne veut pas se marier, alors que son père l'oblige à se marier.
Au 19e siècle, c'était courant, effectivement.
Voilà. Et Un jour, les deux jeunes filles vont trouver un miroir dans une boutique et le ramener dans leurs chambres respectives. Elles vont formuler le souhait d'avoir une autre vie et soudain, boum, inversion, elles changent d'époque. Bradley est envoyé à l'époque de Jane Austen et Eugénie au XXIe siècle et elles se retrouvent chacune dans la chambre de l'autre.
Alors effectivement, quand on veut changer de vie, parfois on ne réalise pas que ce genre de souhait peut se réaliser de manière totalement différente de celle qu'on imaginait. Donc je ne sais pas ce que ça va donner.
D'abord, elles sont déboussolées, évidemment. Parce qu'elles vont découvrir les us et coutumes de chaque époque. Enfin, surtout Eugénie qui peut enfin réaliser ses rêves d'indépendance et qui découvre la technologie.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment le choc. Incroyable, le grand choc.
Parce que Bradley, elle va plutôt prendre conscience de la liberté restreinte de la femme au 19e siècle.
Oui, et là aussi, c'est une tartine comme celle que décrivait la mère du roman précédent. Je pense que ça l'a fait beaucoup réfléchir. Ça lui permet de relativiser certaines choses, sans doute.
Surtout que la place de la femme à deux époques différentes est vraiment bien amenée. On se rend compte que la société a beaucoup évolué, quand même. Même s'il reste toujours des problèmes.
C'est un roman féministe, donc.
Oui, féministe et fantastique, parce que les deux jeunes filles, elles peuvent communiquer par le miroir pendant le roman, donc échanger à propos de leur découverte. Et justement, c'était vraiment génial, parce qu'elles peuvent se donner des conseils, partager leur opinion de la nouvelle époque dans laquelle elles sont, mais surtout chercher une solution pour retourner à leur époque respective, parce que leur famille leur manque quand même.
Oui, parce que j'imagine que avoir envie de retourner au 19e siècle, c'est pas sûr.
Est-ce que vous aimeriez aller au 19e siècle?
Ah, moi?
Oui.
Ah, pourquoi pas, oui, il y a des tas de gens absolument passionnants, mais je pense que j'aurais un petit peu de mal à me faire entendre, je sais pas pourquoi, c'est une idée comme ça.
Bref, c'est vraiment une réussite ce roman, en plus de nombreux passages m'ont fait rire, d'autres m'ont ému, ce roman risque de vous faire passer par un patchwork d'émotions.
On sait toujours ce qu'on attend, donc c'est un bonheur.
Bref, je vous conseille ces deux pépites à 100%, et si aucun de ces deux romans vous tente, je vous invite à aller voir mes pages Instagram et Facebook, Lado Agro au Livre, où vous êtes sûr de trouver votre bonheur.
Alors justement, combien de romans chroniqués ce mois-ci, Arthur ?
Alors, ce mois-ci, une dizaine de romans chroniqués, et justement, j'en suis à plus de 500 romans chroniqués sur ma page depuis le début. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas trouver votre bonheur.
Ah oui, là, je crois que vraiment, il faudrait être de mauvaise foi. Eh bien, merci beaucoup, Arthur.
Merci,
et
Claire.
Nous allons changer totalement de perspective avec Fanny De Sitre, puisque nous allons partir à New York, mais finalement, sans changer de sujet. L'humain, d'où vient-il? Où va-t-il? Et surtout, que jette-t-il? C'est ce dont nous allons parler, donc, maintenant, avec Fanny.
Eh oui. Et donc, le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est « Tu ne désireras pas » de Jonathan Miles.
C'est le 11e commandement.
C'est ça. qui s'appelle en anglais « Want Not ». Il est paru en 2013 aux États-Unis et la version française est sortie cette année, en février, il me semble.
C'est tout récent.
C'est tout récent, oui. C'est paru aux éditions Toussaint L'Ouverture. Et je crois...
Magnifique livre, d'ailleurs.
Ouais. Je crois que c'est le meilleur livre qui m'ait été donné à lire cette année. Bon, il n'y a que 3 mois qui sont passés, mais quand même.
Ça commence très fort.
Ouais, et comme vous le disiez, c'est un très très bel objet, avec une couverture cartonnée. J'ai l'impression d'être au téléachat.
Alors, il est très beau. Est-ce qu'il le café?
Non, mais il fait bien plus.
Il fait bien plus, exactement.
Ouais, non, c'est un bel objet, mais comme tous les livres des éditions Toussaint L'Ouverture,
oui,
de toute façon.
Il y a une vraie attention à l'objet livre lui-même. Hein,
ouais,
le papier.
C'est plein de détails, c'est plein de... Voilà, la typographie est belle, le papier est beau, enfin, bref.
Un bonheur de lecture double.
Ouais, et vraiment, c'est un livre, j'ai l'impression que j'aurais pu lire encore et encore et encore. Il est assez gros, il fait plus de 500 pages, je crois, mais vraiment, ça m'a donné un plaisir pur de lecture. Alors, pour l'histoire, c'est 3 histoires en parallèle. On a une première histoire avec un jeune couple de squatteurs new-yorkais. C'est un jeune couple qui se définit comme frigane. Alors, frigane, qu'est-ce que ça
Mais
veut dire
donc
pour eux? En fait, c'est la volonté de ne laisser aucune trace de leur passage sur Terre. Donc, pour ça, ils vont donc squatter un appartement new-yorkais dont personne ne veut. Ils vont récupérer leur nourriture dans les poubelles, dans les déchets. ne pas consommer de viande, voilà, essayer d'avoir le moins d'impact possible sur sur leur environnement.
C'est une forme de minimalisme extrême.
Extrême et enfin voilà, j'en dirai un peu plus plus tard. Deuxième histoire, c'est l'histoire d'un homme d'une cinquantaine d'années qui est fraîchement divorcé. Il s'occupe de son père qui a la maladie d'Alzheimer. Il est linguiste et on va lui demander de trouver par ses compétences de linguiste une manière de prévenir des sociétés futures du danger des déchets nucléaires qui vont être enfouis sous terre. Donc comment par la langue, par les symboles, on va prévenir des générations futures, attention, ce lieu est dangereux. Voilà. Troisième histoire, c'est l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années qui a perdu son mari dans les attentats du 11 septembre 2001 et qui apprend, 3 jours après son décès, qu'il la trompait en fait depuis des mois. Donc elle vit un deuil un petit peu particulier.
Ouais, un deuil entaché là.
Ouais, vraiment, qui est compliqué à vivre. Elle se remarie avec un homme, un golden boy également. Elle a une relation compliquée avec sa fille. Voilà. Bon, on a ces trois histoires-là qui se déroulent en parallèle. Chaque chapitre nous amène à découvrir les personnages au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui va en fait réunir ces trois histoires ? C'est une forme de désir, de rejet. Et on évoque évidemment donc les déchets. Qu'est-ce qu'on laisse comme trace sur la planète ? Donc avec le premier couple, c'est assez évident. Avec le personnage donc d'une cinquantaine d'années qui est linguiste, ça va être les déchets nucléaires qui vont être au centre de son histoire. Et puis la troisième personne donc qui a perdu son mari dans les attentats, c'est une autre forme de déchet parce que toutes les non mais
oui
elle n'est pas une forme de déchet, hein. C'est juste que tout ce qui va concerner son mari donc décédé, elle va enfouir ça dans des boîtes, dans un garage et ne plus jamais enfin, ne plus jamais, si elle y retourne une fois, justement. Mais voilà, toute cette vie de cet homme qu'elle a aimé, résumée en quelques boîtes, quelques souvenirs enfouis voilà, dans des cartons. Alors, pourquoi ce livre m'a plu ? Déjà, parce que c'est très intéressant. Tous les personnages sont très intéressants. Et moi, je crois ce que j'ai préféré dans ce livre-là, c'est que l'auteur a un espèce de génie à décrire la psychologie humaine. On rentre vraiment, vraiment dans la tête des personnages. On a toutes leurs pensées. Et ça donne quelque chose d'extrêmement honnête, de brillant. Vraiment, moi, ça m'a emporté. Il y a beaucoup de digressions. Il part vraiment, mais comme on fait quand on réfléchit et qu'on pense, on part très, très loin. Et là, l'auteur retranscrit très bien ce mécanisme.
C'est-à-dire le mécanisme de la pensée.
De la pensée, où en fait, on est dans la tête des gens et on suit tout le flot de leur pensée.
Est-ce que c'est un petit peu comme chez Nathalie Sarraute, par exemple ?
Non, enfin moi non. Je préfère largement sa manière
non,
de faire.
C'est pour la,
je suis pas fan de Nathalie Sarraute, mais oui, on va retrouver ce mécanisme-là.
Le flux de pensée.
Voilà, et ça pourrait paraître du coup un peu bavard, mais il y a toujours une phrase, une pensée, un événement qui va rendre ce flot de pensée extrêmement soit drôle, soit intéressant, soit émouvant.
Une petite phrase un peu décalée qui ressort.
Il y a un vrai style de l'auteur. C'est très cru, c'est très moderne. Il y a une langue qui est vraiment recherchée. Voilà. Tout ce que je peux dire de ce livre.
déjà, ça donne envie parce que c'est très surprenant. C'est inattendu, surtout.
C'est un livre inattendu. C'est un livre qui donne à réfléchir. Ça parle beaucoup, comme je l'ai dit, de déchets et de aussi de désir. Qu'est-ce qu'on désire de cette vie ? Qu'est-ce qu'on désire des autres ? Comment on se place par rapport à eux dans notre société actuelle ? C'est des histoires qui, a priori, n'ont rien à voir entre elles. Il se peut que les histoires se frôlent à un certain moment.
On n'en dira pas plus.
On n'en dira pas plus. C'est pas le sujet du livre, d'ailleurs, mais... Moi, c'est un livre que j'ai trouvé, entre guillemets, roboratif. Mmh. C'est-à-dire qu'il m'a contenté.
Après, on est bien.
Ouais,
on est satisfait.
Voilà, exactement. On est satisfait de
les désirs sont comblés.
Exactement. Moi, j'ai trouvé ça brillant.
Est-ce qu'il y a du militantisme dans ce roman ?
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ça nous pousse à réfléchir sur notre mode de consommation aujourd'hui, mais c'est pas du tout moralisateur. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple, ce couple qui vit uniquement de récup, va accueillir un ami dans leur squat, où ils vont avoir des conversations très intéressantes, justement, où cet ami va les mettre face à leurs contradictions. Du coup, on a tous les points de vue qui s'opposent et jamais l'auteur ne tranche véritablement. C'est à nous de nous faire notre propre opinion.
Il propose et le lecteur
choisit.
Réfléchit et se pose des questions sur lui-même.
Oui, tout à fait.
Donc, un livre qui fait réfléchir.
Qui fait réfléchir, oui.
Ben, c'est déjà excellent.
Oui, c'est pas mal.
Donc alors, à ne surtout pas conseiller aux gens qui n'ont pas envie de réfléchir, finalement.
Non, oui. Oui, en même temps, lire un livre, c'est quand même avoir une certaine envie de réfléchir, j'ai l'impression, quelque part. Non ?
C'est une vision de la littérature. Certains considèrent que c'est plutôt du divertissement.
Ça peut, mais forcément, on va trouver quelque chose qui va nous faire réfléchir sur notre propre vie.
En tout cas, ce livre-là, il fait réfléchir, mais il fait passer un bon moment. Et après, on est content.
Et après, on est content. Voilà, on est bien.
Eh bien, merci beaucoup. Le livre qui vous rend content. Moi, je trouve que c'est un bon argument de vente pour le téléachat. On est mûr. Alors, donc, je rappelle que vous appartenez à un groupe, enfin, que la librairie du Cyprès, vous travaillez, appartient à un groupe de libraires indépendants, donc le groupe Initial, qui vient de s'agrandir récemment et qui se tourne vers le Québec. Et je crois que vous êtes en première ligne.
Oui, alors en effet, il y a trois nouvelles librairies qui ont rejoint les librairies initiales cette année, ce qui fait un regroupement de 53 librairies indépendantes de France et de Belgique. Et cette année, en effet, les librairies initiales souhaitent s'ouvrir au Québec et à la littérature québécoise, francophone.
Souvent méconnue en France, en effet.
Souvent méconnue, déjà par moi-même. J'ai lu très très peu, j'ai lu un peu de poésie québécoise et peut-être un roman québécois, mais ça s'arrête là. Et justement, j'ai une formation avec des éditeurs et des libraires québécois pour voir comment on peut nous mettre en avant cette littérature très riche, très variée, assez méconnue, comme vous le disiez, en France.
Eh bien, donc, voilà, de bonnes pistes de lecture. Mmh. Et donc, je rappelle que donc les librairies initiales sont pleines de libraires qui, comme Fanny, sont passionnés par leur lecture. Si vous ne savez pas quoi lire, allez leur poser des questions. Ils vous donneront des conseils de lecture. Vous savez à qui vous adresser pour trouver des idées. Et en attendant, en voici une autre. Le dernier roman d'Arnaud Dudek, On fait parfois des vagues, que nous allons découvrir en deuxième partie d'émission. Et voici la première vague, une vague musicale, celle d'un chercheur d'horizon. On écoute.
Un mangeur d'horizon, dévoreur de tropiques. L'océan pacifique, une silhouette élimée qui suffoque le roc, des cheveux cendriers au Santiago de Destac, un rêveur omniscient qui n'a d'autre ambition que de regarder le vent souffle sur ce balcon. Un semeur de tempête, détrôneur de Lyon, un fileur de commerce. Qui est mon père, ce génie biologique? Ce génie pathétique. Une vieille âme anamite qui se baigne dans le tir, ignore l'eau qui s'effrite, ses derniers souvenirs. Un maniaque haute pression qui passe même.
C'était « Un chercheur d'horizon », une chanson composée par Olivier Hazeman et notre invité Arnaud Dudek. Vous êtes bien sur BAC FM dans la deuxième partie de l'émission « Les voix du livre » et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Arnaud Dudek par téléphone. Bonjour Arnaud.
Bonjour Claire.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Arnaud Dudek, vous êtes l'auteur des paroles de la chanson que nous venons d'écouter. Vous êtes romancier, l'auteur de « Restez sage », publié en 2012 et finaliste du Goncourt du premier roman, et qui a d'ailleurs été adapté pour le théâtre. Vous êtes aussi l'auteur de « Tant bien que mal », qui a été publié en 2017 et qui a reçu le prix Saint-Sernin. Et vous venez de publier en septembre dernier « On fait parfois des vagues », qui est votre septième roman. Qui avait d'ailleurs été écrit pour le, enfin pensé pour le théâtre, on en reparlera tout à l'heure. Et vous êtes également le cofondateur des rencontres littéraires Alterna Livre. Donc vous ne manquez pas d'activité. Alors on fait parfois des vagues. Votre dernier roman raconte la vie d'un garçon, Nicolas, qui apprend lors de son 10e anniversaire qu'il est issu d'un don de sperme et que son père Pascal n'est pas son géniteur. Alors, la phrase qui crée un trémore, comme vous l'écrivez, c'est un sujet assez délicat. Comment trouver sa place quand on apprend ce genre de révélation? Comment entretenir une relation avec un père alors qu'on a déjà du mal à construire cette relation? Et des questions fortes que vous traitez avec beaucoup de tact, de pudeur, mais aussi d'humour qui jalonnent toutes vos pages. Alors, ce sujet, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'aborder?
Alors, tous mes livres, tous mes romans parlent globalement de la transmission, des rapports père-fils. Naturellement, c'est un sujet qui m'a intéressé quand c'est venu au premier plan de l'actualité, que ce soit dans le cadre de l'examen des lois bioéthiques depuis quelques mois maintenant. Il y a aussi un certain nombre d'histoires qui ont été couvertes par la presse, notamment un jeune homme qui s'appelle Arthur Kemarvezen de mémoire, qui avait raconté comment il avait retrouvé son géniteur, aussi devait être né d'une fille ou quelque chose comme ça. Et puis c'est un sujet éminemment contemporain autour de moi aussi, c'est-à-dire que de plus en plus, parce qu'on est cadre, parce qu'on est happé par sa vie professionnelle, on fait des enfants plus tard. Et de plus en plus, on s'aperçoit que c'est pas si simple biologiquement et qu'à 42, 43, 45 ans, Les choses ne sont pas si simples. La biologie est parfois un petit peu fâchée avec nous et on doit se tourner vers des solutions médicales pour avoir des enfants. Voilà, il y a eu plusieurs personnes autour de moi qui ont, à des degrés divers, décidé de se lancer dans cette longue... c'est une forme de combat aussi, hein, parce que c'est beaucoup d'énergie. Déjà, avant même de concevoir... c'est beaucoup de rendez-vous médicaux, c'est beaucoup de questionnements, c'est caser l'énième prise de sang dans son agenda. Et puis derrière, quand on y arrive, soit de façon relativement simple, soit en ayant recours parfois à des rendez-vous à l'étranger, et bah derrière, c'est des questionnements. Qu'est-ce que je dirais à mon enfant le jour où il sera en âge de me poser ces questions-là. Donc tout ça cumulé, voilà. La grande et la petite histoire, si je puis dire. La grande histoire autour des lois bioéthiques, la petite histoire autour de ces vies autour de moi, ça m'a donné envie de m'y atteler. Et après, il a fallu trouver la voie, VOX cette fois,
oui.
Dans quelle peau je voulais me mettre? Dans quelle peau j'allais être le plus à l'aise? Dans celui du père, dans celui de la mère, pourquoi pas? Dans celui de l'enfant qui aurait pu raconter ça du haut de ses 10 ans? Et finalement, après des essais, je me suis trouvé le plus à l'aise dans la voie de l'enfant devenu adulte, qui, après 35 ans de vie relativement peu chaotique, finalement, il lui parlait de grand chose de grave à part un deuil autour de lui, mais qui n'en a pas autour de soi, deuil d'une amie proche. Il s'est construit quand même, malgré ça. Il s'en est plutôt bien sorti, mais il y a toujours ce point d'interrogation dans sa vie d'adulte qui est d'où je viens. Et c'est essentiellement, finalement, autant une quête...
presque métaphysique, quelque part.
Voilà, ouais, autant une quête métaphysique qu'aussi parfois des parenthèses qu'on n'a pas refermées. Parce que c'est parfois souvent ça, les secrets de famille qui sont parfois mal dits, parce que c'est un peu ça aussi. Hein. Y a non seulement une révélation, mais il y a aussi une révélation un peu ratée, quelque part, de ses origines. Et il est là autant dans sa vie, autant à chercher des réponses qu'à refermer des parenthèses.
Oui, vous aviez prévu d'ailleurs au départ d'écrire une pièce de théâtre. Et quand vous parlez des voix, justement, qu'est-ce qui vous a amené à opter pour le roman? C'est justement en faisant ces tests dont vous avez parlé tout à l'heure.
Oui, exactement. Oui, j'avais d'ailleurs le projet théâtre, il n'est pas tout à fait suspendu, hein, malgré le contexte sanitaire. On a toujours ça en tête avec le comédien qui travaille avec moi. C'est tout simplement le comédien qui avait adapté déjà mon premier roman au théâtre. Et on s'était promis de retravailler ensemble. Et lui, il m'avait dit, je ne me suis jamais attaqué à un monologue. Un jour, si tu as 5 minutes, écris-moi un truc. Il avait dit ça en riant. Moi, j'y vais un peu pris au mot. Et quand ce sujet est venu, je savais pas encore ce que j'allais en faire. Ça pouvait très bien être un roman, un petit de théâtre. Comme je disais, je cherchais la voie et ça a pu très bien être aussi un roman jeunesse. Parce qu'on pouvait se contenter, entre guillemets, du narrateur à 10 ans. Quand je me suis décidé et quand j'ai trouvé cette voie, j'étais plutôt parti sur quelque chose d'assez court. Une petite trentaine de pages qui pouvait être très bien un monologue. Simplement, au bout d'une première version, je me suis rendu compte que il y avait trop d'ellipses, voilà, tout simplement. Trop de zones d'ombre, et une histoire qui a trop de zones d'ombre, même si on dit que le travail doit être aussi fait par le spectateur.
Là, ça faisait trop de travail pour le spectateur.
Ouais, ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. Il fallait couper trop de choses. Donc, en gros, pour moi, savoir ce que je devais couper, je devais tout écrire quelque part. Et après, on aurait choisi ensemble avec le comédien quelle coupe on faisait, quel choix on faisait, et plutôt travailler dans ce sens-là. Ce qui fait que comme j'avais de la matière et comme les pages s'accumulaient et que j'étais aussi relancé par mon éditeur qui me demandait t'as un truc, c'est parti sur un roman. Tout en gardant quelque part le le texte de théâtre en miroir, voilà, ou le roman miroir de la pièce de théâtre. Enfin, ça dépend, parce que l'idée théâtre est un petit peu venue avant, mais voilà, travailler un peu en miroir. On n'a pas encore fait de répétition vu le contexte de lecture, etc., au niveau du théâtre, mais on a prévu ça pour fin de l'année. Et c'est comme ça que ça s'est tout simplement dessiné et décidé.
Ah oui, donc on comprend mieux effectivement votre choix. C'est une manière assez originale de percevoir la coupe que de commencer par écrire pour pouvoir savoir ce qu'on va couper.
Exactement.
En tout cas, ça a bien fonctionné et on constate que votre style dans ce roman est justement assez spécifique puisque vous utilisez le présent, donc des phrases souvent courtes, un style direct, enlevé, teinté de beaucoup d'ironie, avec assez peu de propositions subordonnées, ce qui peut se comprendre si vous aviez à l'esprit la langue orale. Vous intégrez les paroles des personnages sans tirer ni guillemets et pourtant sans aucune ambiguïté. Et par ailleurs, vous avez choisi de raconter votre histoire en une suite de chapitres brefs, efficaces, avec il y a plein de petites phrases finales à la fin des chapitres, ça qui ouvre plein d'horizons. Et alors, pourquoi finalement avoir choisi ce type d'écriture, avoir gardé une écriture assez orale, enfin orale, c'est pas orale comme écriture, mais disons que c'est un style un petit peu inhabituel pour un roman. Pourquoi avoir gardé cette marque peut-être théâtrale?
Il y avait l'envie de le traiter comme un patchwork quelque part, puisque j'étais parti sur l'homme de 30 ans qui raconte sa vie de 10 ans, puis en fait il y avait tellement de liens entre les deux que quelque chose de complètement chronologique serait perdu à mon avis de son efficacité, d'autant qu'il ne passe pas forcément non plus grand chose à certaines époques de sa vie à ce monsieur. Il a passé des concours, il a essayé à travailler. Il y a des périodes où il n'y a pas forcément de matière à creuser. Donc ce fonctionnement avec des allers-retours entre le présent et le passé, parfois aussi au sein du passé, faire des petites digressions aussi entre 10 ans, 20 ans, etc. Ça me permettait aussi de donner un peu de rythme quelque part. Et puis le traitement quasi parfois novellistique, c'est-à-dire vraiment s'attarder sur des anecdotes et en faire presque des nouvelles dans le roman, ça m'amusait aussi quelque part de travailler comme ça. Et puis c'est ça aussi l'écriture, c'est trouver du plaisir et pas forcément penser derrière au livre qui va être publié ou au lecteur qu'on va avoir. C'est aussi ça. Donc finalement, je me suis laissé un petit peu porter par cette construction qui me semblait aussi intéressante. Alors j'avais un petit peu, dans une forme encore plus courte et dans un sujet encore plus difficile, j'avais un petit peu aussi expérimenté avec un précédent roman qui s'appelle Tant bien que mal. Et ça, voilà, c'était aussi une façon de garder aussi un peu un rythme intéressant et dans la continuité de mes expérimentations côté théâtre.
Voilà. Et donc c'était une exploration d'un nouveau territoire un petit peu.
Absolument. Moins narratif, moins roman, tout en essayant de garder cette colonne vertébrale identitaire forte, mais qui me permettait quand même de jouer avec les époques et avec les personnages aussi, puisque certains personnages vont et viennent, comme les parents du narrateur ou des amis du narrateur qui du coup permettent de mieux le construire. C'est comme quelque part la meilleure façon finalement de dresser le portrait de ce personnage, c'était d'ajouter par petites touches des éléments biographiques, pas forcément dans l'ordre, pour mieux le comprendre, pour mieux le cerner, pour mieux comprendre sa recherche aussi.
Oui, effectivement, c'est une espèce de puzzle qui compose le personnage. On le voit de plusieurs angles et ça fonctionne très bien et c'est très dynamique en fait. Alors pour rester dans la dynamique, nous allons faire une pause musicale en écoutant le deuxième titre que vous avez choisi, qui s'appelle donc Papa de Miossec.
J'ai pourtant essayé.
essayé tant de fois de mettre mes pas sur tes pas sans parvenir à quoi que ce soit. Et me voilà tel que je suis là. Tes défauts, j'en ai plein les bras. Et c'est un peu encombrant parfois. Ne m'en veux surtout pas de te ressembler tant que ça. Oui, je t'aime, papa. Oui, je t'aime, papa. Oui, je t'aime, papa. Oui, je t'aime, papa. Laissé tel que je suis là, en pleine rue, regardant je ne sais quoi, des choses peut-être déjà vues, des choses qui ne comptent peut-être même pas. En savoir plus, ou ne vaudrait-il mieux pas chercher du sens là où il n'y en avait pas? Là où il n'y en avait pas.
Vous êtes bien sur Bac FM, nous sommes en compagnie d'Arnaud Dudek, auteur du roman « On fait parfois des vagues », publié aux éditions Anne Carrière, et nous venons d'écouter « Papa » de Miossec, que vous citez, Arnaud, dans vos remerciements. Alors, on peut se douter de la raison de votre choix de ce morceau, étant donné le thème, bien évidemment, très proche de celui du roman. Mais des chansons sur la paternité, les relations père-fils, il en existe beaucoup. Pourquoi celle-là en particulier ?
Oui, c'est vrai que le catalogue des chansons sur ce thème est assez important. C'est une chanson qui m'a particulièrement touché, moi, la première fois que je l'ai entendue, sur la difficulté de communication entre un père et son fils, et cette façon pleine de pudeur de lui dire que voilà, maintenant qu'il a vieilli, il accepte aussi les défauts de son père. Et puis c'est aussi parce que je suis un grand fan de Christophe Miossec, que j'avais déjà cité dans un de mes précédents livres. Il y a toujours ce mélange entre le côté un peu rugueux de certains mots qu'il choisit et de sa voix aussi quelque part, et cette douceur et cette pudeur dans ces textes qui me touchent particulièrement. Et je cite aussi une phrase de la chanson dans le livre. Je cite d'autres textes, d'autres chansons dans le roman. Mais c'est une chanson qui m'a beaucoup accompagné pendant l'écriture, histoire de, parfois on doit retrouver son fil quand on écrit, notamment comme moi je suis aussi assez accaparé par mon métier principal, mon activité principale. Parfois ça aide aussi de reprendre le fil quand on a passé, je sais pas moi, 15 jours sans écrire. On a besoin parfois alors ça peut être des rituels, hein, ça peut être se remettre à la même place, au même endroit, avec les stylos alignés pareil, mais ça peut aussi être simplement une chanson pour retrouver l'état d'esprit d'un livre qu'on est en train d'écrire. Et ça c'est un titre qui m'a permis ça aussi.
Ah, donc effectivement, c'est extrêmement extrêmement utile, parce que j'imagine qu'en effet, si vous arrêtez d'écrire votre roman pendant 15 jours, surtout un roman comme celui-ci, dont on expliquait tout à l'heure le caractère un petit peu patchwork, c'est pas évident. Donc la musique vous permet de vous remettre dans un état d'esprit qui correspond à l'écriture finalement.
Absolument.
Et c'est une habitude d'écrire en musique ou simplement à vous écouter de la musique avant ou...
Oui, c'est plutôt écouter de la musique avant. Je n'écris pas en musique. J'ai besoin quand même de... Même si j'ai pas trop de difficultés à me concentrer en règle générale, c'est plutôt voilà pour retrouver l'état d'esprit, écouter un peu de musique, boire un café, puis après hop on s'y replonge. C'est nécessaire quand on est un peu obligé de passer d'une activité à une autre de façon quasi constante. Alors c'est un peu l'interrupteur on/off, passer de vérification de dossier pour le travail à l'écriture, il y a besoin d'un petit sas de décompression. Et plus le temps passe et plus il se raccourcit ce sas de décompression. Enfin, peut-être l'expérience ou la vieille grille, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chanson peut suffire. Une chanson et un café, ça peut suffire.
Ah ouais, voilà une routine simple à,
oui, ça
à
va,
réaliser. Pour le passage de l'un à l'autre. Alors, vous avez choisi comme titre On fait parfois des vagues, qui est un titre assez énigmatique, hein, qui attire tout de suite l'attention. Il reprend d'ailleurs une phrase qui est répétée dans le roman. Alors le choix d'un titre est toujours un moment délicat. Comment l'avez-vous choisi ?
Alors le titre de travail, ça, c'était Génie biologique, qui est aussi pour l'instant le titre de travail du projet théâtre. On y a réfléchi avec mon éditeur, on y a réfléchi longuement. Et on en a convenu que c'était peut-être un titre un peu trop rugueux et un peu trop administratif pour séduire. Et après, on a fait un peu comme pour les albums de chansons, pour revenir un peu à la chanson. Mm-hmm. Parfois, on a un titre qui domine un peu les autres,
oui,
et qui peut très bien être le titre de l'album. Bah là, c'est un peu pareil. On s'est dit que ça pouvait être une piste, et comme j'ai chaque chapitre a son titre. Assez vite on s'est arrêté sur ce chapitre un peu particulier, tant par le rythme que par la coupure de rythme justement, qui est ce chapitre qui s'appelle On fait parfois des vagues, qui est plutôt vers la fin du livre, qui est une sorte de quasi-résumé d'une partie du livre, du process, et qui balaie voilà une vie entière, et qui ramène ensuite dans sa conclusion à une scène bien particulière entre le narrateur et un personnage. C'est devenu l'évidence. Et puis voilà, poétiquement, ça sonnait pas trop mal. Donc on s'est dit, allons-y là-dessus et on travaillera sur la couverture qui est magnifique. D'ailleurs, que j'ai tout de suite adoré la proposition de couverture de Manon Bussiarelli, qui est l'illustratrice, pour compléter un petit peu la part de mystère du titre.
Ah oui, parce que c'est énigmatique au sens où on ne voit pas tout de suite, tant qu'on ne connaît pas tant qu'on n'a pas lu la quatrième de couverture, on ne sait pas de quoi va parler le roman, et c'est très intriguant. Alors justement, vous disiez que vous aviez réfléchi avec votre éditeur pour ce roman, vous avez changé d'éditeur. Est-ce que c'est le signe d'un changement aussi dans votre manière d'écrire, dans vos projets d'écriture ?
Alors j'ai changé de maison d'édition, pas d'éditeur.
Ah.
Pas tout à fait en tout cas. je travaille depuis longtemps avec Jean-Baptiste Gendarme, qui est fondateur de la revue Décapage, qui a été un temps apporteur de manuscrits, agent littéraire, qui m'a fait rencontrer les gens d'Alma Éditeur, donc mon premier éditeur, avec qui j'ai travaillé pour mes trois premiers manuscrits. Pour mes trois premiers romans, concrètement, même si c'était chez Alma, c'était avec lui que je travaillais en premier. Donc après, les chemins sont un petit peu non pas séparés, parce qu'on a toujours gardé le contact, mais un peu moins littéraires. Et à partir du moment où il m'a annoncé qu'il quittait ses fonctions d'agent pour devenir éditeur chez Anne Carrière, ça a été naturel. J'avais envie de retravailler avec lui. On a des relations très très franches, très simples, et c'est imposé. Donc je l'ai rejoint chez Anne Carrière quand lui-même est arrivé chez Anne Carrière, et on a travaillé donc sur deux manuscrits jusqu'à présent là-bas. Donc le précédent, et puis on fait parfois des vagues. Moi j'aime travailler avec lui parce qu'on est dans une sorte de ping-pong permanent. À s'envoyer des textos parfois, tiens, j'ai lu cet article, tu devrais le lire, ça peut t'aider pour ton roman. Il sait me rassurer aussi quand ça pédale un peu. Et puis Oui, et puis c'est très stimulant. Et puis c'est, à mon sens, assez rare aussi, pour en avoir parlé avec quelques auteurs, quand on a vraiment cette complicité littéraire, ben voilà, il faut mesurer sa chance aussi. Parfois les auteurs se plaignent, mais moi j'ai beaucoup de chance. Et puis la maison Anne Carrière est une belle maison. Mmh. Où les gens sont là depuis pas mal d'années. On sent aussi une bonne entente. Donc ça se passait très bien avec Alma Éditeur auparavant, mais disons que l'accueil et la transition sont faits très vite. Alors non, je pense que si changement il y a dans le style ou l'approche, c'est simplement voilà, c'est d'autres façons de travailler qui sont nées avec le temps ou peut-être que l'humour que j'utilisais comme arme dans les premiers livres est plus là en deuxième plan peut-être maintenant plutôt que mon premier roman était une sorte de comédie un peu un peu qui partait un peu dans tous les sens en termes de narration, mais l'humour était peut-être plus présent. Là maintenant on est plus effectivement sur des petites touches un peu d'ironie, un peu de pour faire glisser les choses plutôt que pour les amener quelque part. Donc moi c'est le
reste,
ton et
ça reste humoristique quand même, hein. Il y a beaucoup de petites touches comme vous dites, c'est peut-être plus léger, c'est sûr, comme
voilà.
Disons que ça permet de prendre du recul par rapport à la gravité des faits que vous racontez par exemple à certains moments. Je ne vais pas divulgâcher le roman, mais disons qu'il y a quand même au moins une rencontre qui est tout à fait attendue par le lecteur, hein, pendant tout le roman, et qui se déroule de manière à la fois banale et extrêmement émouvante, avec justement toutes ces petites touches d'humour et qui fonctionnent justement, je pense, entre autres grâce à ces petites touches d'humour qui permettent de désamorcer une émotion très très forte et en même temps une banalité de situation, enfin une fausse banalité de situation, grâce à ce recul que vous apportez par ces touches d'humour qui sont différentes, ça c'est sûr, de votre premier roman que j'avais d'ailleurs aussi beaucoup aimé. Alors donc vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu l'idée de ce roman notamment à cause de l'actualité ou grâce à l'actualité, avec effectivement beaucoup de gens qui ont recours aussi à des tests ADN, hein, avec dont l'utilisation est d'ailleurs officiellement interdite en France, ce qui n'empêche pas du tout les gens d'y recourir. Donc la réalité a inspiré votre fiction pour ce roman. Mais est-ce que d'une manière plus générale, le réel vous inspire, ou bien est-ce que vous partez d'une idée et vous essayez de voir ce qui, dans le réel, pourrait s'y adapter ?
Bonne question. Oui, le réel m'inspire. Le réel m'inspire, évidemment, parce que, alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai aussi les deux pieds ancrés dans le réel, dans mon quotidien professionnel.
Oui, qui n'est pas tout à fait du même style. Oui.
Mais oui, ça part de ça. Ça part toujours de ça. J'ai besoin, alors pas forcément de passer des heures à fouiller les sujets. Bon, je l'ai fait dans un livre, mais ça n'a pas forcément. La plupart des choses que j'avais trouvées, la plupart de mes recherches n'ont pas été mises dans le livre. C'était plus pour m'imprégner de quelque chose. Mais oui, ça part toujours du réel. Il y a des choses qui me touchent et qui me donnent des envies d'écrire. Et c'est ça qui est le moteur. Moi, je me vois pas. Alors, même si parfois on peut dire autant, voire plus dans des romans d'anticipation, dans des uchronies sur notre quotidien, mais j'ai besoin de m'inspirer du réel et d'ancrer mes livres dans le réel. Il y a toujours ce besoin pour moi de réalité sociale de mes personnages. Ça me paraît important que...
Ah oui, ils sont très ancrés dans la société et dans le réel, vos personnages.
Voilà, ça me paraît très important de pas dire de bêtises. Je sais pas, moi, là, il y a un personnage qui... Enfin, le narrateur passe des concours, il travaille dans la fonction publique, milieu que je connais bien, mais en tout cas, il était nécessaire que je sois cohérent sur le sondage de passage de concours. Il y a besoin d'être le plus précis possible, parce que derrière, si la réalité sociale du personnage elle est bien peinte, on n'a pas trop de questions à se poser après sur ses réactions, sur sa façon d'être quelque part. il y a déjà beaucoup de travail qui est fait.
Oui, il est déjà bien ancré, il est déjà bien présent. Oui, effectivement. Oui, donc le réel est une source d'inspiration, finalement, peut-être votre principale source d'inspiration.
Exactement, oui, la principale source d'inspiration. Voilà, je suis en train de travailler sur un autre livre qui est encore pas tout à fait sorti de terre, mais là aussi il y a des éléments autour de moi encore une fois qui m'ont fait donner envie de m'attaquer à un sujet parce que ça c'est quelque chose qui m'a touché et que là aussi dans l'actualité récente il y a des choses qui m'intéressent, qui m'interpellent. Je me décris pas comme un écrivain engagé, j'ai pas cette prétention là. Mm-hmm. J'ai pas de message à faire passer particulièrement, moi c'est plus des questions que je pose, mais en tant qu'auteur, moi je me vois plutôt comme quelqu'un de concerné, voilà. Mm-hmm. Concerné par les problèmes sans être engagé, sans donner ma vision des choses, en tout cas c'est pas le but, mais restant toujours bien ancré dans le réel.
Vous aidez plutôt le lecteur à se poser des questions peut-être.
Enfin, vous, là à j'espère montrer... en tout cas que oui. Le but c'est pas de faire bouger les lignes. Les lignes elles bougent un peu toutes seules et c'est très bien d'ailleurs en ce moment. Mais c'est de s'interroger effectivement dans le cadre du don de gamètes, du don d'ovocytes. Et de l'appel à un donneur, de l'anonymat du don, j'espère que les lecteurs ont pu éventuellement trouver des réponses aux questions qui peuvent se poser ou creuser un petit peu certains aspects du sujet.
Donc votre actualité, c'est ce nouveau roman qui n'est pas encore sorti de terre, mais qui va bientôt bien germer, et peut-être une adaptation théâtrale dont fait parfois des vagues. Si j'ai bien compris.
Oui, voilà. Bon, on travaille sur l'adaptation. Ça sera plutôt en fin d'année. J'ai un roman en cours qui tourne autour un peu de harcèlement et sport quelque part. C'est un peu les thèmes qui pourraient être en deux mots résumer un peu le projet. J'ai aussi des idées pour un livre jeunesse. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Ça aussi, écrire pour la jeunesse et trouver peut-être un sujet, une voix et quelque chose d'un peu original, parce que c'est aussi ce que j'ai envie de faire, c'est aussi pour mon plaisir à moi, mais c'est aussi pour qu'à faire essayer de trouver un sujet qui peut toucher. Voilà, ça c'est les projets en cours pour 2021.
Voilà, qui nous donne envie d'avoir la suite. Alors, justement, on peut suivre votre actualité sur votre site, sur votre chaîne YouTube, sur votre page Facebook. Et je rappelle le titre dont nous avons parlé aujourd'hui, « On fait parfois des vagues », publié par les éditions Anne Carrière. Eh bien, merci beaucoup, Arnaud, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était
merci
très instructif, on a appris beaucoup de choses et on a hâte d'avoir la suite.
Merci beaucoup.
Et je remercie Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et Fanny De Citre pour leur chronique enthousiaste. Cette émission était réalisée et montée par Laetitia Durieux et conçue et présentée par Claire Garand. À bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les voies du livre.